Alors, nous avons vu comment la racine du problème, si je puis dire, dans notre vie, c'est essentiellement la réceptivité. Il y a plus de mérite, disait la petite Thérèse, à recevoir qu'à donner. Au sens de ce chemin d'humilité, de brisure de notre moi autosuffisant, que suppose la réceptivité. Donc, dans la construction de nous-mêmes, dans l'édification de nous-mêmes, en même temps l'Église dit que, enseigne dans le catéchisme que l'homme s'édifie lui-même, mais il s'édifie lui-même à la mesure d'abord de sa réceptivité. Cette réceptivité, comme je l'ai dit, elle a été abîmée par le péché originel. C'est pour ça que la racine du péché, c'est le péché originel. C'est le péché à l'origine de tous les autres péchés. Et cette réceptivité, elle nous est restituée par le Christ. Le Christ qui enlève le péché du monde, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et celui qui est victorieux du mal à sa racine, c'est-à-dire victorieux de notre orgueil, de notre autosuffisance, de notre esprit d'indépendance. Précisément, je vous invite à contempler Jésus sur la croix comme celui qui va jusqu'au bout de la confiance aveugle et de la dépendance à son Père. Le dernier cri de Jésus sur la croix, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Jésus est mort dans une confiance totale, alors qu'il était dans toute son humanité comme abandonné par le Père. Abandonné par le Père, il s'est abandonné totalement au Père. Et c'est cette confiance totale qui répare la non-confiance du péché originel. Parce que, comme l'Église l'enseigne, dans tout péché, il y a un manque de confiance en Dieu à la base. Alors, Benoît XVI a pu dire que la parole du Christ que vous connaissez dans la guérison du sourd-muet, dans l'évangile de saint Marc, « Ephphatha, ouvre-toi », Benoît XVI n'a pas peur de dire que ce petit mot, « Ephphatha », résume tout le message et toute l'œuvre du Christ, rien de moins. Autrement dit, Jésus est venu essentiellement nous ouvrir au Père. Continuellement, cette petite voix « Ouvre-toi » pourrait résonner au fond de notre cœur comme étant la première parole que Jésus nous adresse. « Ouvre-toi à mon Père. » Le Christ sur la croix, c'est un homme tout ouvert. Il est allé jusqu'au bout de l'ouverture pour nous libérer de nos fermetures sur nous-mêmes. Et donc, en fait, je voudrais que nous méditions sur le fait que la vie chrétienne, c'est d'abord se réfugier dans le cœur ouvert de Jésus. C'est trouver racine dans le cœur ouvert de Jésus. C'est laisser Jésus être notre ouverture. Il y a une fermeture intérieure, dit Benoît XVI, qui concerne le noyau profond de la personne, celui que la Bible appelle le cœur. C'est lui que Jésus est venu ouvrir, libérer, pour nous rendre capables de vivre pleinement la relation avec Dieu et avec les autres. Donc, dans notre vie chrétienne, vous voyez, nous ne pouvons pas nous permettre d'en rester au niveau de la morale du décalogue, qui, j'y reviendrai, concerne les actes concrets que nous posons. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Mais dans notre vie, nous avons une conversion plus profonde, une conversion radicale à vivre, qui consiste de jour en jour à rentrer dans une ouverture plus grande, qui va de pair avec une passivité aimante, qui est, comme je l'ai dit, essentiellement de l'ordre de la foi, de l'espérance, et pour ça de nous approcher du Christ, pour bâtir notre vie sur le roc d'un cœur ouvert à l'amour pur et gratuit de notre Père du ciel. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier de mon orgueil, de mon autosuffisance, de mes refermements sur moi-même, de nos vieux enfermements, comme a dit une fois Benoît XVI. Alors, mes amis, je vous propose de reprendre les exercices spirituels dans cette lumière, de reprendre les exercices spirituels qui sont toujours à notre portée, quotidiennement, où que nous soyons. Le premier exercice que Jésus nous propose de vivre avec lui et par lui, c'est l'exercice de la prière. Enraciner notre vie dans la réceptivité signifie recourir à la prière continuellement. En tout, dit saint Paul, recourir à la prière. C'est l'exercice le plus utile, comme dirait Jean-Paul II. C'est pas évident de s'arrêter pour prier. C'est pas évident de retourner à cette passivité. C'est pas évident d'arrêter l'élan de l'action, de se remettre dans une attitude de dépendance. À ce niveau-là, je crois qu'il faut revaloriser la prière de demande. C'est vrai que au ciel, passons notre éternité à louer Dieu. Mais sur terre, la prière, c'est d'abord le gémissement du pauvre, du lépreux, de l'infirme, de l'aveugle, du boiteux. L'homme est un pauvre, disait le curé d'Ars, qui a besoin de tout demander à Dieu. Et la prière, c'est l'exercice qui nous est proposé donc pour revenir à cette attitude d'humilité qui brise le fond d'orgueil, la racine d'orgueil qui est en nous. Donc la prière sera jamais quelque chose d'évident. En réalité, ce sera jamais quelque chose qui viendra de nous d'abord. La prière, dit le catéchisme, est action de Dieu et de l'homme. Mais elle est d'abord action de Dieu, plus précisément action de l'Esprit-Saint. Dans notre vie de prière, il faut absolument éviter d'être comme quelqu'un qui fait, qui fabrique sa prière. Puisque la prière est là pour nous apprendre à dépendre de Dieu, en réalité, le premier exercice est de vivre notre prière elle-même dans la dépendance à Dieu. De penser que nous ne pouvons pas prier de nous-mêmes. Comme dit saint Paul, nous ne savons pas que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit-Saint vient au secours de notre faiblesse. Il y a des personnes qui disent qu'elles n'arrivent plus à prier, qu'elles ne savent plus prier. J'ai dit la première attitude juste, l'attitude qui ouvre toujours la porte à la grâce, c'est l'humilité. Et la première humilité ici, donc, c'est de reconnaître notre impuissance à prier avec le cœur. Une fois qu'on a compris qu'on ne pouvait pas ouvrir de nous-mêmes notre cœur, mais simplement se disposer à s'ouvrir, eh bien, on peut vivre la prière de manière plus simple. D'abord dans la reconnaissance de notre sécheresse, de notre incapacité, de notre impuissance. Puis ensuite, de laisser l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ, l'Esprit de prière du Christ agir en nous. Parce que la prière est chrétienne dans la mesure où elle participe à la prière du Christ. Elle devient à ce moment-là filiale. Il n'y a que la prière du Christ qui puisse vraiment toucher le cœur du Père, et notre prière, nous la glissons dans la prière du Christ. Seigneur, apprends-nous à prier. Cette demande des apôtres au Christ, pouvons la renouveler à chaque fois que nous prenons un temps de prière. Mais en même temps, je prononce ce terme « temps de prière », qui est, je me dis qu'au fond, tous les temps sont pour la prière. Le catéchisme pose la question, y a-t-il un temps favorable? Quels sont les temps favorables à la prière? Réponse, tous les temps sont favorables à la prière. L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu en toutes circonstances. Toute circonstance de notre vie est favorable à la prière. Toujours au fond de nous-mêmes, nous pouvons reconnaître notre pauvreté, notre besoin de Dieu, notre incapacité à aimer et à voir les choses. Toujours nous pouvons revenir à cette attitude de gémissement. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair. Si j'ai beaucoup aimé entendre d'une part d'une convertie qui veut avoir des grâces particulières, cette parole, je cite souvent, « j'ai pas le temps de prier, alors je prie tout le temps. » Ne soyons pas tendus après un temps de prière à prendre, mais dès que nous prenons conscience de Dieu, dès que nous revenons à Dieu, prions, gémissons. Reprenons contact en même temps avec notre misère profonde, notre incapacité à sortir de nous-mêmes, à nous ouvrir aux autres. Personne ne témoignait ce midi qu'au téléphone, elle avait une image de la Vierge qu'elle contemplait en même temps qu'elle parlait avec sa fille. Eh bien, ça, oui, voyez, ça s'est puisé à la source en même temps qu'on parle. On est là, et on puise aussi dans le cœur immaculé de Marie l'humilité, l'écoute, la disponibilité, l'ouverture de cœur dont on a besoin pour que la parole que l'on prononce vienne de l'intérieur et vienne d'une source pure. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas nécessairement de rajouter des exercices en plus dans une journée, mais c'est de laisser la prière tout pénétrer de l'intérieur. Si vous avez cette image de l'arbre, de la racine, si vous comprenez que la vie ne peut se déployer qu'à partir de la racine, d'une racine qui puise effectivement, pas d'une racine qui serait rabougrie et qui serait plus incapable de rien capter. Si vous avez cette image-là, c'est évident que la racine, c'est du jour et nuit. C'est du non-stop. C'est pour ça que Jésus ose nous dire « prier sans cesse ». Nous prions sans cesse à partir du moment où nous désirons sans cesse. Nous gémissons sans cesse. La prière, Benoît XVI l'a définie dans son encyclique sur l'espérance comme un exercice du désir. Il y a les deux aspects, un exercice d'humilité et un exercice du désir. L'exercice d'humilité, c'est plutôt du côté de la foi, ça va de pair avec la confiance. Et puis l'exercice du désir, c'est plutôt du côté de l'espérance. Priez beaucoup. La prière ne doit pas comporter beaucoup de paroles des saints Augustins, mais beaucoup de supplications, si elle persiste dans une fervente attention. Beaucoup prier, c'est frapper à la porte de celui que nous prions par l'activité incessante et religieuse du cœur. Le plus souvent, cette affaire avance par les gémissements plus que par les discours, par les larmes plus que par les phrases. Alors, soyons pas trop préoccupés des phrases, mais laissons ce gémissement se vivre en nous, s'approfondir en nous. Crier beaucoup, c'est gémir beaucoup. Et au fur et à mesure que nous laissons ce gémissement s'approfondir en nous, eh bien, l'espérance grandit, l'espérance s'exprime et se nourrit dans la prière, dit le catéchisme, et le vase de notre cœur s'élargit. La capacité à recevoir. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dieu donne pour autant qu'on espère. L'âme reçoit de Dieu, dit saint Jean de la Croix, pour autant qu'elle espère. La prière ne change pas Dieu, elle nous change, elle nous rend plus réceptifs. Demandez, vous recevrez. Mais vous voyez, il y a une prière charnelle, une prière magique, où on demande sans ouvrir son cœur. Généralement, à ce moment-là, on demande des choses qui en réalité ne sont pas selon le dessein de Dieu. Écoutez saint Jacques, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Afin de dépenser pour vos passions. Là, il n'y a pas d'ouverture de cœur. Dieu ne peut pas donner sa grâce sans nous donner en même temps son amour. Et si on n'est pas ouvert à son amour, on n'est pas ouvert aux grâces qu'il veut nous donner. Donc la prière qui touche, la prière qui reçoit, c'est la prière du cœur. Et c'est précisément parce que notre cœur est malade et compliqué et durci. C'est précisément pour ça que dans la prière, il faut nous réfugier dans le cœur de Jésus. Il faut laisser le Christ prier en nous, parce qu'en réalité, nous sommes incapables d'entrer dans cette véritable ouverture, d'entrer dans une prière qui soit spirituelle, filiale, capable de rejoindre le cœur de Dieu. Alors, de tout ce que j'ai dit, apparaît une chose évidente, c'est que la prière va de pair avec le jeûne. Un jeûner, quand on en a du mal à prier, jeûner, il n'y a pas que la nourriture, il y a tout ce qui encombre, hein, la racine qui encombre notre cœur. Le jeûne est important, hein, pour quand on sent qu'on commence à s'attiédir, pour nous faire réveiller la soif de Dieu, c'est évident. Le jeûne, c'est aussi un exercice d'humilité dans lequel on touche notre dépendance, notre pauvreté. Le deuxième exercice spirituel que nous sommes appelés à vivre, c'est l'écoute de la parole. Ici, nous touchons à la réceptivité au niveau de la lumière pour parvenir à une intelligence lumineuse. L'écoute de la parole, c'est l'exercice qui nous est proposé pour vivre donc cette réceptivité nécessaire, cette passivité nécessaire de l'intelligence, incapable par elle-même de vérité. Et quel est l'exercice qui nous est proposé quand nous lisons la parole de Dieu? L'obéissance de la foi. C'est l'expression de saint Paul. C'est quoi l'obéissance de la foi? L'obéissance de la foi, c'est le complet hommage de notre intelligence et de notre volonté à Dieu qui révèle. La soumission volontaire, l'assentiment volontaire à la révélation. Je m'incline. J'incline, je brise l'orgueil de l'intelligence qui prétend encore connaître par elle-même. Je me soumets à la parole de Dieu. Je suis incapable de comprendre par moi-même. Je l'accueille passivement. J'y adhère dans la foi. Une fois, Benoît XVI a dit que ce qui faisait la grandeur d'un théologien, c'était la profondeur de son obéissance de la foi. Parce que notre obéissance nous vaut l'intelligence. Plus je reçois dans l'obéissance, dans la soumission à la parole de Dieu, sans faire le tri entre ce que je veux bien admettre et ce que je n'admets pas, comme font beaucoup de gens, finalement, les paroles qui les dérangent. Dans l'enseignement de l'Église, il y a des choses qui ne sont pas d'accord. Ils mettent ça en veilleuse. On fait son petit marché, on fait son tri à soi en fonction de nos critères à nous. On reste maître, maître de la vérité. On la fabrique, on la recompose à notre manière. Mais il n'y a pas de vraie intelligence de la foi sans un profond abaissement de l'orgueil de l'intelligence dans la soumission. Il faut croire sans comprendre pour pouvoir comprendre. Ensuite, rentrer dans une intelligence nouvelle, qui n'est pas simplement une intelligence, voyez, j'y reviendrai, une intelligence des vérités de Dieu, des vérités surnaturelles, mais qui est aussi une intelligence nouvelle de la réalité. Parce que la foi éclaire tout d'une lumière nouvelle. Benoît XVI a eu cette belle expression, il faut que notre foi devienne intelligence, que notre intelligence devienne foi. Il faut que la foi transforme notre manière de penser, qu'elle nous rejoigne dans notre recherche de la vérité, comme étant la clé d'ouverture à la lumière. Et à ce moment-là, notre intelligence devient foi, au sens où elle s'exerce continuellement à l'intérieur de la foi, et donc de la lumière de la foi. En fait, nous devenons des aveugles qui voient, grâce à la foi. Parce que, encore une fois, Dieu, dans la révélation qu'il nous fait de lui-même, de son amour et de sa parole éternelle qu'est le Christ, nous révèle l'essentiel de ce que nous avons à comprendre de la réalité. Il y a deux questions essentielles. Pourquoi j'existe? Et qu'est-ce que je dois faire sur terre? Et la parole de Dieu nous dit, qui est Dieu? Dieu se révèle lui-même, il révèle sa volonté. Il révèle son dessein éternel et le chemin. Quand on voit la fin, la vraie fin de la vie, la finalité, et qu'on a aussi, par Dieu, la révélation du chemin, tout est donné dans le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, bien à ce moment-là, on voit le sens des choses. On voit le sens des réalités, des événements. Parce que tout est relatif à ça. Toute la création proclame Dieu. Elle a été créée par Dieu et nous dit Dieu. Et tous les événements de notre vie sont pour nous conduire à la vie éternelle. Donc tout est relatif à la fin et au chemin. Celui qui connaît la fin et le chemin, il voit toutes choses dans une lumière surnaturelle et il peut tout traverser. C'est la sagesse. Le sage, c'est celui qui connaît la fin ultime et qui ordonne tout en fonction de la fin ultime, dans son intelligence. Il voit l'ordre des choses. Les Écritures, les Saintes Écritures sont à même de te procurer la sagesse, dit saint Paul à Timothée. Demandons la sagesse du cœur, une nouvelle intelligence. Benoît XVI a dit une fois, on peut courir avec une grande intelligence et à grands pas dans la mauvaise direction. Ce qui fait l'intelligence de quelqu'un, c'est le sens qu'il a de la finalité ultime. Ça ne sert à rien de connaître beaucoup de choses si on ne sait pas ordonner les choses. À quoi ça sert d'être dans un bateau qui est très riche, qui a quantité de trésors et qui part dans la même direction et qui va bientôt se briser contre un iceberg, comme le Titanic? Il y a des vies qui sont comme ça. L'homme le plus accompli, s'il lui manque la sagesse de l'Écriture, sera tenu pour rien. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, dit saint Jacques, et qu'il fasse cet exercice de soumission, d'obéissance à la Sainte Écriture, et qu'il laisse le Christ lui parler à travers les Saintes Écritures. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, Ne suis pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent. J'ai envie de rajouter avec ceux qui savent, avec les sages et les intelligents de ce monde. Mais se plaît dans la loi du Seigneur, dans la Torah, dans sa parole, et murmure sa parole, sa loi, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Ici, c'est l'eau de la sagesse qui coule. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. C'est clair. Les règles du jeu sont claires. Maintenant, on peut dire avec Jean-Paul II que l'engagement prioritaire de tout chrétien, c'est la prière et l'écoute de la parole. Encore une fois, ça, c'est exercice toujours possible. Alors, je vous invite, pour vivre cet exercice, à vous laisser conduire par la Vierge Marie, qui est la femme la plus mûre qui soit. Modèle de maturité, a dit Benoît XVI récemment. La Vierge Marie, tout enracinée dans l'écoute, toute petite, toute dépendante, qui n'a jamais rien pensé d'elle-même, qui n'a jamais rien voulu savoir. Épouse de l'Esprit Saint. La pauvreté en esprit. La Vierge Marie qui nous est donnée comme un petit oratoire. Vous avez ces petites chapelles dans lesquelles on aime bien prier, dans lesquelles la prière devient naturelle. Prière devient naturelle quand on se réfugie dans l'humilité du cœur immaculé de Marie. Marie nous enfante à la vie cachée, à la vie enracinée dans le Christ. Elle nous remet la balle au centre. C'est pour ça que Jésus a voulu qu'elle soit toute humble, toute cachée, toute dépouillée de ce qui brille. Elle en a encore moins fait que la petite Thérèse, qui a quand même écrit. La Vierge n'a laissé aucun écrit. Elle n'a pas fait de miracle, elle n'a pas prêché. Dieu a voulu que la reine des hommes et des anges vive la vie la plus simple pour nous montrer que ce qui fait la réussite d'une vie, c'est la réussite du cœur. Cette réussite du cœur peut se vivre au travers d'une activité tout ordinaire. Marie est le symbole de l'ouverture à Dieu et aux autres, a dit Benoît XVI. L'homme mûr, c'est l'homme humble et ouvert. Je repense à nouveau à ce qu'a dit François sur Pierre Coursat. Capacité de présence. Vous voyez, moi j'ai eu la confirmation de mon appel par Pierre Coursat. Je suis venu à lui pendant un week-end communautaire. Je ne connaissais rien, j'avais 20 ans. Je ne connaissais rien à la communauté de l'Emmanuel. On m'a dit, parce que j'avais dit mon désir d'être prêtre et les personnes que j'avais rencontrées, à cette époque j'étais vraiment un peu déconnecté de la vie de l'Église et puis je m'étais marginalisé moi-même, je ne faisais pas du tout sérieux et donc la personne qui était responsable un peu des futurs prêtres, elle ne me voyait pas du tout rentrer dans la communauté pour être prêtre. Comme j'insistais, elle m'a dit, on va te montrer à Pierre Coursat. On va discerner. Il avait un charisme de discernement. Enfin, plus qu'un charisme, en fait. Ce n'est pas un charisme pour moi. Ça relève vraiment de cette intelligence du cœur qui voit au-delà des apparences. Donc, moi, j'arrive un peu sale, cheveux plutôt longs. On me présente Pierre Coursat, comme ça, et alors moi je dis, on va prendre un rendez-vous pour se parler, et puis je me présente quand même, je dis que je fais des études d'histoire, j'étais passé de maths spé à Clignancourt, première année d'histoire, Paris 4, et j'étais là avec mon petit discours comme ça, et puis il était comme ça, ça a duré 2 minutes, et puis il est reparti comme ça, il m'a dit, on n'a pas eu le temps de prendre un rendez-vous. Et après, j'ai vu revenir le responsable des prêtres qui m'a dit, il a dit oui. Et il avait discerné que j'avais la peine. À partir de quoi ? D'un cœur ouvert. ouvert à l'autre, ouvert au cœur de l'autre. Il avait senti qu'il y avait l'appel de Dieu en moi, c'est tout. Moi, je ne vais pas parler ni de ma vocation, ni de quoi que ce soit, mais quand il y a l'humilité, l'ouverture du cœur, il y a l'intelligence. On voit au-delà des apparences.
Oui, moi j'ai eu la grâce de vivre avec Pierre un an. Nous étions trois, comme étaient dit, trois autres. Bon, là, j'étais jeune. Et simplement à propos de l'humilité de Pierre, qui était déjà un homme fait, il devait avoir 58 ans, avec toute une vie de souffrance, il était quand même assez malade, et puis surtout de fidélité à la prière, donc déjà un calibre spirituel extraordinaire. Un matin, il dit écoute, Jean-Marc, sur quoi tu penses que je dois changer ?
Bon, voyez, la formation spirituelle, quand on dit, on parle de formation spirituelle dans le cadre du séminaire ou dans le cadre d'une paroisse, c'est essentiellement la formation du cœur. Savoir accueillir le don de Dieu. Et ici, je me permets, en conclusion de cette première partie, sur les deux exercices quotidiens fondamentaux que nous avons à vivre en tant que chrétiens, je me permets d'insister qu'on ne pourra jamais construire l'humain, humaniser, sans en même temps aider, favoriser cette ouverture du cœur. Ça veut dire que cette ouverture du cœur peut se vivre, se favoriser, même chez des personnes qui n'ont pas encore la foi. Elle est liée à l'humilité, elle est liée à une attitude de confiance, surtout l'humilité. Vous voyez ? Donc il y a un travail qui peut se faire là, auprès de tout homme, auprès de gens, encore une fois, qui sont loin de l'Église. Et ça, ça fait partie de la formation spirituelle. Les vertus humaines s'enracinent dans les vertus théologales. C'est-à-dire la croissance des vertus humaines va dépendre de cette formation du cœur. Là où il se déploie à partir des racines, de la profondeur des racines. Donc moi, quand j'étais adolescent et que j'entendais dire « avant d'être chrétien, il faut être un homme », je n'étais pas d'accord. D'abord, peut-être parce que je sentais que moi j'étais mal construit humainement, que ça me laissait peu de chance d'être un jour chrétien, mais aussi parce que fondamentalement, je ne trouvais pas ça juste par rapport aux béatitudes. Je me souviens, je m'étais attrapé avec un dominicain qui était un grand professeur. Moi, j'avais 20 ans et je m'étais presque battu oralement avec lui pour lui dire que non. Bon. Mais non, et Benoît XVI insiste beaucoup là-dessus. Non, l'homme se construit d'abord à partir de cette ouverture à Dieu, c'est ça. Toute l'œuvre du Christ, c'est d'abord de nous ouvrir. Après, il y a la construction de l'humain. Alors, la manière dont les choses s'articulent entre les vertus humaines qui sont là pour perfectionner nos facultés, nos branches, si je puis dire, et puis aussi le tronc aussi, quelque part, et puis la manière dont ça s'articule avec les vertus théologales est complexe, évidemment, parce qu'il y a des allers-retours, évidemment. C'est pas tout dans un sens unique. On va essayer de d'approfondir cela, il y aura un enseignement à la fin de l'année sur les vertus spécifiques. Mais je me contente ici d'insister sur le fait que les vertus théologales, la foi, l'espérance, et d'où découle la charité, fondent, comme dit le catéchisme, animent et caractérisent l'agir moral du chrétien. Fondent, les racines, animent, c'est la sève qui passe, caractérisent l'agir moral du chrétien. C'est la base. L'essentiel, donc, le plus important, ce travail du cœur, descendre dans la passivité aimante, comprendre que pour être vraiment actif, il faut d'abord rentrer dans la passivité. Comprendre que cette passivité est l'activité la plus haute de l'homme, consentement à l'amour, c'est en fait l'exercice le plus haut de notre liberté, ce que certains théologiens appellent la liberté de consentement. Comprendre aussi, et c'est là où on revient sur cette question de l'articulation entre la formation humaine et puis la formation spirituelle, entre les vertus théologales et les vertus humaines, comment tout ça s'articule, comprendre que la vie du cœur, cette réceptivité qui reste donc toujours la racine de tout, elle n'est pas séparable de notre comportement concret. Il y a, comme dit Benoît XVI, une corrélation mystérieuse de l'intérieur avec l'extérieur. L'Écriture nous invite à distinguer deux travaux. Il y a le travail sur le cœur et le travail sur les mains. Écoutez Saint Jacques, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, âme double. En bonne théologie, on dit que l'action a deux parties. Il y a l'acte intérieur et l'acte extérieur. Dans toute action humaine, il y a quelque chose qui se vit à l'intérieur et quelque chose qui se fait à l'extérieur. Si je parle à quelqu'un, je prononce des paroles, et c'est avec quelque chose dans mon cœur. Et on sait bien que ce que j'ai dans le cœur, eh bien, passe à travers les paroles. Même si elles sont apparemment hypocrites, celles sont hypocrites, en réalité, il y a quelque chose qui passe. Qui fait que l'homme spirituel reconnaît tout de suite l'hypocrisie. Eh bien, inversement, nous savons très bien que si je prononce des mots grossiers, par exemple, qui m'échappent un petit peu, je me permets de traiter quelqu'un de crétin, par exemple. Encore, il dit c'est gentil, mais je ne veux pas. C'est vrai, j'ai fait exprès de ne pas être trop. Eh bien, nous savons que ce qui sort de la bouche, comme dit Jésus, souille l'homme. Souille quoi? Son cœur. Blesse son cœur, blesse l'amour en lui. Mystérieuse corrélation. Ce qui est extérieur rebondit sur l'intérieur. Ce qui est extérieur, quelque part, vient toujours de l'intérieur, même si nous faisons tout pour cacher notre intérieur. Tout c'est animé par ce que nous portons dedans de nous, mais inversement, ça rejaillit sur l'intérieur. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, la passivité, j'ai du mal. J'ai du mal parce que je me mets le plus souvent en état de stress. Comme a dit une personne qui m'est très chère, le stress, c'est mon copain. Je ne suis pas le seul à avoir le stress comme copain. Ah oui, parce qu'on vit avec. Hein. C'est une manière d'exister. Hein. Ça nous colle tellement à la peau que si on n'est pas stressé, on a l'impression de ne pas vivre. Hein. Bien. Eh bien, ma vie de prière, elle est à peu près proportionnée à la manière dont je mâche la nourriture. Ça va vous surprendre l'analogie, la corrélation. Dans la mesure où je rentre dans la patience pour mâcher la nourriture, me poser pour manger, ce qui est déjà énorme pour moi. M'asseoir pour manger, c'est énorme. Demander beaucoup. Là, c'est concret. S'asseoir, c'est passif. Hein. Moi, je peux faire trois choses à la fois. J'y arrive. M'asseoir pour manger, c'est le sacrifice de la journée, le soir. Si j'arrive à faire ça, ben, je vais voir que la prière après va être plus facile. J'aurai posé mon acte concret de briser ma tension, mon stress. Alors c'est sûr que si dans la journée j'ai prié avec le cœur, je me suis abandonné à Dieu, je vais plus facilement me poser sur la chaise et prendre le temps de manger calmement, patiemment, en mâchant. Mais inversement, si je ne fais pas cet exercice, la prière du soir, elle va être sous stress. Je vais continuer à être dans le faire et à faire le plus possible. Alors, on fait ses prières comme on ferait le ménage ou comme on ferait autre chose, quoi. Ah oui, c'est mystérieux l'homme. Donc en fait, dans la construction de nous-mêmes, tout l'art est de comprendre cette corrélation, cette correspondance entre l'intérieur et l'extérieur, et de voir les actes extérieurs, les petits comportements, les petits changements de comportement que l'on peut faire pour changer en même temps notre cœur.
Moi, cette semaine, j'ai fait cet exercice-là un petit peu avec mes ennuis matériels. Et en fait, ça se multipliait de tous les bouts. Et il fallait que j'intervienne auprès de beaucoup de personnes, dont la moitié, j'étais en colère contre elles. Et donc, je me suis dit, on est dans le stress absolu parce qu'il faut que tout soit fini avant lundi prochain. Si en plus on rajoute la colère et plein d'autres attitudes pas justes intérieurement, on n'y arrivera pas. J'ai bien vu que l'état de mon cœur avait vraiment besoin d'être purifié. Donc j'ai fait l'exercice qu'il y a dans l'Apocalypse là, de s'asseoir, d'écouter Jésus frapper à la porte. Et puis de le laisser entrer, et puis j'ai mis mon icône, comme je mange toute seule le midi, j'ai mis mon icône devant moi, puis j'ai mangé avec Jésus. Le repas de Louis, ça m'a fait penser à ça. J'ai mangé avec Jésus, puis je lui ai dit, bon, ben, montre-moi que par où je commence. Et là, j'ai vu la colère que j'avais vis-à-vis de la personne qui achetait l'appartement. Et je me suis dit, mais en fait, après avoir discuté avec Jésus, je me suis dit, mais pourquoi je suis en colère après elle, alors qu'elle veut que les choses soient faites dans les règles, etc. Donc, en analysant les choses, même s'il y avait des choses très pinailleuses qui m'étaient demandées, ma colère, elle n'était pas du tout ajustée. Donc, j'ai passé du temps et je me suis dit, si je lui téléphone dans l'état où est mon cœur, je vais compliquer le problème. Elle va me rajouter une liste de trucs. Donc, j'étais coincée, j'étais obligée de régler mes problèmes dans mon cœur. À un autre moment, j'ai vu aussi que je pouvais me mettre en position de victime, agressée par le notaire, le syndic, les machins, les trucs. Et je me disais, bon, je me mets en position de victime. Ça, c'était un de mes défauts qui revient facilement. Donc, il fallait que je me dise non, je renonce à ça. Seigneur, j'ai besoin de ta force pour... prendre mes responsabilités, faire ce que je dois faire jusqu'au bout et sans me mettre en position de victime. Et donc toute la semaine, ça a été un travail sur mon cœur et j'ai vraiment eu une grande joie. J'ai eu de quoi confesser, quoi, mais j'ai en même temps eu une grande joie de vivre vraiment tout ça avec Jésus et de voir les miracles qu'il a fait. Le notaire m'a félicité en me disant « j'ai jamais vu ça, vous avez fait ça à une vitesse extraordinaire ». Et moi j'ai vu pas à pas Jésus me montrer à partir du moment où je mettais la joie, la paix dans mon cœur. J'ai supplié le Seigneur de me donner la paix et de me montrer tout ce que je vais lui donner de mes mauvais plis. Et du coup les miracles se sont multipliés. Parce que vraiment, j'avais une démarche, à la mairie de Paris ils m'ont dit « il faut 3 mois pour la faire ». Et on l'a fait en 3 jours. Donc c'était impossible de faire ça en 3 jours. Je me suis dit, vraiment, Jésus a fait. Mais en même temps, moi, physiquement, j'avais mal au cœur. Je voyais que Jésus me purifiait mon cœur sur toutes ses attitudes.
Actuellement, on parlait de miracles. J'ai titillé un petit peu antérieurement en disant, à la fois c'est un miracle, en même temps c'est la loi de la vie. Quand le cœur s'ouvre, la réalité s'ouvre. Ça ouvre une brèche dans la réalité, dans les événements. Le concile a dit que la racine des déséquilibres dans le monde est dans le cœur. Tous les déséquilibres sont dans le cœur de l'homme. Incroyable cette puissance du cœur, hein? C'est l'intérieur, le primat de l'intérieur sur l'extérieur. Et donc quand le cœur se convertit, se purifie, les choses se réordonnent. On rééquilibre les choses. C'est comme quand j'ai vu à l'hôpital les malades qui suivent un chemin d'abandon à Dieu et ceux qui se portent le mieux. Hein. Sincèrement, pendant 10 ans, j'ai pu l'observer. Ils ont beaucoup plus d'énergie et ils sont beaucoup plus patients pour suivre vraiment ce que leur demandent les médecins. Ils appliquent vraiment, ils font leur devoir d'État, ils ont la force de se battre, mais pas de se débattre désespérément. Ils sont portés par la force de l'abandon qui les traversent aussi dans leur corps. Donc, vous voyez, tout ce que la morale enseigne, et au-delà des commandements, toute l'éducation aux vertus, à ce qui convient ou convient pas de faire, comme un homme se tenir à table, la manière de se comporter dans tout. Tout ça peut être vécu soit pour se forger un personnage et présenter des apparences de juste, tout en gardant un intérieur rempli de rapines, soit peut être vécu, soit en correspondance avec notre vie intérieure, pour favoriser la conversion du cœur et la purification de l'intérieur. C'est deux éducations différentes. Si, je parle aux parents ici, si vos enfants voulaient qu'ils soient conformes au modèle que vous imaginez, que tout ça, ou si vous voulez qu'ils soient des arbres enracinés dans le Christ, c'est deux éducations différentes.
Oui, le paraître, en tout cas l'idéal qu'on se fait de soi-même. J'ai eu successivement des tas d'idéaux de moi-même. Ça a commencé par, quand j'avais 20 ans, je me voyais en militaire héroïque. Quand je me suis marié et que j'ai eu des enfants, je me suis vu en modèle de paternité et de mari et d'époux, etc. etc. Comme la réalité est ce qu'elle est, je mesurais bien tous les jours l'écart qu'il y avait entre cet idéal et la réalité. Ça déclenchait, parce que je suis comme ça, beaucoup d'amertume. Il faut vraiment se méfier de se paraître. On est dans une civilisation de l'image, vous le savez, et on en est aussi nous-mêmes les victimes. Il y a quelqu'un qui m'a fait beaucoup de bien, je voudrais témoigner de ça. C'était il y a 5 ou 6 ans, au parcours Alpha, un dimanche après-midi. Le week-end Alpha se terminait par la messe, mais il y avait là un certain nombre de personnes recommençantes, comme on dit, puisque c'est le charisme d'Alpha. Il y avait un monsieur qui avait 75 ans, à peu près, et qui s'est levé au moment de la communion et a remonté l'allée centrale pour aller communier. Il était magnifique. Il pleurait toutes les larmes de son corps en disant: je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Il était magnifique, de vérité, magnifique de vérité. Tous les masques étaient tombés et il allait vers le Christ, présent dans l'Eucharistie, en toute vérité. C'était magnifique. Et cet homme m'a fait beaucoup de bien.
Je vous remercie pour ce témoignage parce que ça me permet d'enfoncer un dernier clou qui est de reprendre une distinction traditionnelle entre ce qu'on appelle la justification par la foi et la sanctification. Je vous lis le concile. Appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres, mais au titre de son dessein gracieux. Ça, c'est « je ne suis pas digne ». N'avons aucun mérite par rapport au don de la charité divine, au don premier de Dieu. Justifiés en Jésus-Christ, les disciples du Christ sont véritablement devenus, par le baptême de la foi, fils de Dieu, participant de la nature divine, et par la même réellement saints. Il y a un germe de sainteté qui est donné gratuitement, moyennant la foi, moyennant l'humilité, la confiance en la miséricorde, aucun mérite. Aucune activité précédente de notre part, aucune œuvre à présenter. Simplement le sacrifice du cœur, au sens de ce sacrifice de notre orgueil. Mais, dit le concile, là c'est la justification par la foi. Voyez la parabole du publicain et du pharisien. Jésus dit, c'est lui le publicain qui est sorti justifié par son humilité. Il ne vous a même pas regardé dans le ciel. Il n'y a pitié de moi, pauvre pécheur. C'est tout, ça suffit. L'amour pur et gratuit. Justification par la foi. Mais, cette sanctification qui est donnée donc au départ, pur, par l'amour pur et gratuit de Dieu, cette sanctification qu'ils ont reçue, réceptivité, leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever par leur vie. Par leur vie. C'est-à-dire par leur comportement, par leur manière d'agir. Et ici, ça devrait faire résonner en nous une autre image de l'Évangile, le vin nouveau. Le vin nouveau de la grâce, il doit être dans les outres neuves. À vin nouveau, outre neuve, à la grâce de sainteté doit correspondre un comportement nouveau. Sinon, le vin risque de se perdre. C'est quoi le vin qui se perd? C'est quand le comportement est en contradiction totale avec le vin nouveau. Ça s'appelle un péché mortel. On peut perdre la grâce sanctifiante par un acte concret. Mais inversement, par des actes qui vont dans le sens de la charité. On va voir ce que l'on peut faire pour aller dans le sens de l'amour, pour cette sanctification par la vie, par les actions, par le comportement. On va essayer de creuser ça, ce soir. Mais nous pouvons permettre à la grâce de continuer à grandir en nous. Mais voyez, c'est pas d'abord la justification par la foi et puis ensuite on s'occupe de la sanctification par la vie concrète. Non, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire, à cause de notre péché, on aura toujours à revenir aussi dans cette attitude de celui qui ne mérite rien devant Dieu et s'en remet totalement à sa miséricorde en ne pariant que sur la gratuité du don de Dieu. Revenir à l'attitude du publicain. Mais voyez, là, on trouve la voie de la petite Thérèse. Elle savait profiter de ses péchés pour revenir à Dieu dans une attitude d'humilité et de confiance, la réceptivité. Mais en même temps, la petite Thérèse, elle s'est battue avec elle-même. Elle s'est battue dans son comportement. Elle a posé des actions pour changer son comportement. Elle avait une affectivité déréglée. Elle s'accrochait à la rampe de l'escalier pour ne pas aller voir sa sœur tellement elle avait besoin de tendresse. Elle sentait que c'était de l'attachement. Elle s'est battue avec elle-même. Elle a changé son comportement. Elle a lutté contre ses scrupules. Elle a fait beaucoup d'efforts concrets dans la vie réelle, quotidienne. Il faut tenir les deux. La justification par la foi, la sanctification par la vie. C'est pour ça que l'Église dit que l'homme est sauvé par la foi et les œuvres. Mais les œuvres au sens du comportement, pas par la grandeur des œuvres, comme si on était sauvé à partir du moment où on réalisait quelque chose de grand, non, rien du tout. Par la foi et la vie concrète, les actes que l'on pose. Pas par la foi seule. Au sens où, de toute façon, la vie du cœur n'est pas séparable du comportement concret, de la vie tout court. Je termine. Le Concile Vatican II a comparé la charité, la grâce de Dieu qui nous est donnée, la charité divine. Elle nous dit que cette charité, Dieu l'a répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Elle est le don premier et le plus nécessaire. Mais pour que la charité, comme un bon grain, croisse dans l'âme et fructifie, écoutez bien, pour que la charité qu'on a reçue, qu'on doit toujours recevoir à nouveau dans une attitude de réceptivité, de foi, croisse dans l'âme et fructifie, chaque fidèle doit s'ouvrir volontiers à la parole de Dieu et avec l'aide de sa grâce, mettre en œuvre sa volonté, participer fréquemment aux sacrements, surtout à l'Eucharistie, aux actions sacrées, s'appliquer avec persévérance à la prière, à l'abnégation de soi-même, au service actif de ses frères et à l'exercice de toutes les vertus. Ben, il y a tout, quoi. Il y a toute la vie là-dedans. Pour favoriser que la petite graine, elle croisse et fructifie, tout est là pour le favoriser, en fait. On va revenir là-dessus ce soir. Voyez, mais l'amour n'est pas quelque chose que nous fabriquons, mais l'amour est quelque chose que nous devons laisser croître et fructifier en nous. C'est pas quelque chose que l'on fait, mais c'est quelque chose qui doit nous faire faire tout. Moyennant ce travail qui favorise sa croissance et sa fécondité en nous et à travers nous.